L'histoire a cette particularité un peu troublante d'avoir presque toujours été écrite par des gens qui se tenaient à une distance très prudente de leur sujet.
Ouais, le fameux regard externe.
Exactement. Enfin, il suffit d'imaginer la scène, c'est presque un cliché des siècles passés. T'as un navigateur qui se tient sur le pont de son navire, qui observe un continent lointain à travers sa longue vue, et puis qui griffonne quelques notes dans son carnet.
Et paf, ça devient l'histoire officielle.
Voilà. Par la force des choses, ce petit carnet devient la vérité, la norme, l'histoire avec un grand H, quoi. C'est toujours ce regard externe qui a historiquement défini la réalité interne.
C'est clair.
Mais, et c'est là que ça devient passionnant, que se passe-t-il quand le sujet observé décide de descendre de la rive, de s'approcher, de repousser cette longue vue et de s'emparer lui-même du micro?
C'est une excellente métaphore. Surtout qu'aujourd'hui, bon, la longue vue a été remplacée par les algorithmes de nos téléphones.
Bah oui, mais la dynamique de pouvoir reste exactement la même, hein?
Tout à fait.
Et c'est justement ce qui motive notre analyse d'aujourd'hui. On va se plonger dans un document fondateur, un manifeste et un document d'information sur Radio Tam Tam Africa. C'est un média numérique panafricain, indépendant, qui a été fondé par Félicité Amanéara Vincent, une journaliste indépendante, éditorialiste et entrepreneur.
Une figure très intéressante d'ailleurs.
Oui, très. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment un média moderne tente de se réapproprier la narration de tout un continent à l'ère numérique.
Et c'est un changement de paradigme qui mérite vraiment qu'on s'y attarde longuement, parce que ça s'inscrit dans un contexte mondial, enfin, on va pas se mentir, extrêmement tendu.
Ah ça, oui.
On navigue dans une époque de surcharge d'informations absolues. Et dans ce bruit constant, la crédibilité et surtout la source de la narration, ce sont devenus des armes redoutables.
Ouais, c'est des enjeux géopolitiques majeurs, en fait.
Exactement. Qui raconte l'histoire? À travers quel prisme? Quels intérêts se cachent derrière le choix de tel ou tel mot? C'est plus du tout des simples questions de déontologie journalistique locale, là.
Non, ça va bien plus loin.
Raconter l'histoire de l'Afrique aujourd'hui, c'est exercer une influence directe sur les investissements économiques, sur la diplomatie internationale, sur la souveraineté. Parce qu'historiquement, le récit africain a souvent été coincé entre deux forces.
Lesquelles ?
D'un côté, une presse internationale qui plaque ses propres grilles de lecture, souvent occidentales, et de l'autre, parfois des médias locaux qui sont sous influence politique ou financière.
D'accord, je vois le tableau. Et c'est pour ça que ce manifeste est hyper pertinent pour comprendre un peu les batailles de l'information d'aujourd'hui. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que, avant de comprendre comment ce média fonctionne techniquement, il faut saisir sa philosophie de base.
Son ADN, en quelque sorte.
C'est ça. Le document source met en avant un slogan puissant. C'est « La parole est une force ». Et on sent bien la volonté de faire émerger une parole africaine, libre, crédible et surtout tournée vers l'avenir.
Ouais, et c'est pas juste un fil d'actualité basique.
Ah non, pas du tout. C'est vraiment une vision à 360 degrés. Ils font de l'actualité internationale, de l'économie, ils parlent des marchés financiers, des enjeux de souveraineté.
Mais pas que.
Non, pas que. Et c'est ça qui est dingue. Ils mélangent ça avec la culture, les patrimoines africains et l'entrepreneuriat, genre les PME et les start-up.
Ce qui est fascinant ici, c'est justement la façon dont ce média refuse catégoriquement d'isoler l'économie de la culture.
C'est vrai que c'est rare.
C'est même un acte éditorial de déconstruction très fort. Parce que dans beaucoup de médias occidentaux traditionnels, l'information sur l'Afrique, elle est compartimentée.
Ouais, genre la case crise géopolitique et la case folklore.
Exactement. T'as les coups d'État d'un côté et la faune de l'autre. Mais Radio Tam Tam Africa, en valorisant sur la même plateforme un chercheur en macroéconomie, une artiste émergente et les marchés financiers, il s'attaque à ces stéréotypes monolithiques.
C'est super intelligent. Ça montre que tout est lié, en fait.
Complètement. Une société, ça se développe pas avec l'économie d'un côté et la culture de l'autre dans des boîtes hermétiques. L'innovation technologique à Kigali ou à Nairobi, elle se nourrit de l'identité culturelle locale.
Ouais, ça donne vraiment une image beaucoup plus complexe et réaliste du continent. Et là, je fais un peu l'avocat du diable. Pour qu'une narration soit véritablement libre, elle doit être à l'abri des pressions externes.
Absolument.
Et le document est très clair là-dessus. C'est une organisation à but non lucratif. Ils dépendent d'aucun actionnaire, d'aucun groupe industriel ou gouvernemental.
Ce qui est la clé du pluralisme et de la rigueur.
D'accord. Mais il y a une objection pratique évidente. L'indépendance, ça coûte une fortune. Moi, je vois ça un peu comme faire ses courses. T'as le supermarché industriel d'un côté, où tout est subventionné et pas cher, et le marché de producteurs locaux de l'autre.
C'est une bonne analogie.
Bah oui, si tu veux des informations bio et sans filtre, pour filer la métaphore, bah, la communauté doit payer l'infrastructure.
Et cette infrastructure est lourde. Les sources détaillent précisément ce qui nécessite un financement. Et c'est pas juste des stylos et des carnets, hein.
J'imagine, oui.
On parle d'infrastructures de streaming massives, de licences de diffusion internationale, d'équipements audiovisuels de pointe, sans compter la réalisation de reportages sur le terrain.
Ça chiffre vite.
Très vite. Cela soulève une question importante. Comment tu finances ça sans te vendre ? Le manifeste explique que le modèle économique est entièrement basé sur le soutien communautaire.
Le crowdfunding permanent, en gros ?
En gros, oui. Et c'est vu comme le seul véritable bouclier contre la censure financière.
Ah oui, parce que si t'as un millionnaire qui te finance et qu'un article lui plaît pas...
Il coupe le robinet.
Voilà.
Alors que si qui dépend de 10 000 petits donateurs, personne n'a le pouvoir de te faire chanter.
C'est une résilience par le nombre. C'est brillant. Mais du coup, ça m'amène à une autre question. Puisque le média dépend de sa communauté, c'est qui cette audience ? Parce qu'on parle d'un continent immense.
C'est un point crucial. La plateforme se veut être un espace d'échange pour les citoyens, les décideurs, les étudiants.
Ça fait beaucoup de monde, très différent.
Ouais, mais de manière hyper cruciale, ils ciblent la diaspora.
Ah, la diaspora mondiale.
Exactement. Ils proposent de la musique hyper diversifiée, la découverte de nouveaux artistes, des directs, des podcasts... Et il valorise énormément les initiatives de la diaspora à travers le monde.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Comment on réussit ce grand écart ?
Quel grand écart ?
Entre les enjeux hyper locaux, je sais pas, une start-up au Sénégal, et la perspective internationale d'un membre de la diaspora à Paris ou à Montréal.
En fait, il faut pas voir la diaspora comme un public distinct, mais comme une caisse de résonance. Si l'on relie cela à la situation globale, écouter une programmation musicale riche ou un podcast pointu sur une start-up, ça crée un lien.
Un lien invisible.
C'est ça, un vrai tissu conjonctif culturel invisible, mais ultra puissant, à travers les continents. Ça unit l'Afrique et ses expatriés au quotidien.
C'est vrai qu'à musique ou les infos économiques communes, ça ancre les gens dans une même réalité, peu importe où ils habitent.
Et ça leur permet de s'investir intellectuellement ou même financièrement dans le développement du continent.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour atteindre cette diaspora, qui est par définition éparpillée partout dans le monde, et pour rivaliser avec les géants médiatiques, une simple station de radio FM, ça suffit pas.
Non, on n'est plus dans les années 90.
C'est clair. Et c'est là que l'innovation technologique entre en jeu. Le document Source parle d'un concept de, je cite, « média augmenté ».
Oui, c'est le terme qu'ils emploient.
Ils font des investissements massifs dans le numérique et l'intelligence artificielle. Et moi, j'adore le contraste. C'est comme si on greffait un moteur de Formule 1 ultra-moderne sur un instrument acoustique traditionnel, juste pour être sûr que sa musique soit entendue à l'autre bout de la planète.
C'est une image très parlante. Mais attention, il y a une distinction fondamentale à faire ici sur leur utilisation de l'IA.
Vas-y, dis-moi.
L'utilisation de l'IA chez Radio Tam Tam Africa, ce n'est absolument pas pour générer des articles à la chaîne ou créer des fausses informations. C'est pas du deepfake ou du journalisme automatisé.
D'accord, donc c'est pas pour remplacer le journaliste.
Non, le cœur du métier reste humain. L'IA est utilisée purement pour la distribution et l'accessibilité.
C'est-à-dire ?
Ça sert à enrichir les métadonnées éditoriales, à optimiser ce qu'on appelle le référencement GEO et SEO.
Attends. SEO, on connaît, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche genre Google. Mais GEO ?
GEO, c'est Generative Engine Optimization. C'est l'optimisation pour les intelligences artificielles génératives.
Ah, genre quand tu poses une question à un chatbot et qu'il te pond une réponse...
Exactement. Si ce chatbot n'est nourri que par des dépêches occidentales, la réponse sur l'Afrique sera biaisée. Donc Radio Tam Tam utilise l'IA pour s'assurer que ses propres articles, rigoureux et indépendants, soient intégrés et priorisés par ces moteurs génératifs.
Waouh, c'est super stratégique.
C'est même vital pour exister numériquement aujourd'hui. L'IA sert aussi à améliorer l'accessibilité, à accélérer la production de formats multimédia, genre transformer un texte long en audio pour l'écouter dans les transports.
Pour offrir une expérience utilisateur hyper fluide, quoi.
Voilà. Le but final, c'est de s'imposer sur les grandes plateformes et de faire de ce média une référence francophone absolue du journalisme numérique africain.
C'est vraiment la rencontre entre la rigueur journalistique classique et les armes des géants de la tech. C'est brillant.
Et c'est indispensable si on veut peser dans le débat mondial.
Si on résume un peu tout ce qu'on vient de voir, Radio Tam Tam Africa, sous l'impulsion de sa fondatrice et avec le soutien de sa communauté, c'est en train de construire un écosystème assez unique.
Un écosystème très complet, oui.
Un espace où l'Afrique raconte sa propre histoire, avec ses propres voix, ses propres perspectives, en alliant le sérieux d'un journalisme indépendant aux technologies de pointe comme le streaming et l'IA.
Le tout sans dépendre des milliards d'un conglomérat.
Exactement. Et franchement, ça soulève une réflexion fascinante quand on regarde le paysage médiatique global aujourd'hui.
Oui, parce que ce modèle pourrait faire des vagues bien au-delà de l'Afrique.
Totalement. Si une organisation non lucrative arrive à utiliser l'intelligence artificielle et le streaming mondial pour démocratiser une narration, et ça sans l'appui de milliardaires ou d'États...
Ce qui est un exploit en soi.
Bah oui. Est-ce que ce modèle de média, un média augmenté par la technologie et financé directement par la communauté, ne pourrait pas devenir à terme la plus grande menace pour les monopoles médiatiques traditionnels partout dans le monde ?
C'est une vraie question de fond sur l'avenir de l'information.
Et ça laisse vraiment matière à réflexion pour tous ceux qui se demandent comment on s'informera demain.